Une marée noire au Pérou. Depuis le début de l'année, un oléoduc a cédé par deux fois dans le nord du pays. L'équivalent de plus de 3000 barils de pétrole se déverse dans une zone particulièrement riche en faune et en flore. Les régions de Loreto et Amazonas subissent une catastrophe environnementale et humaine de grande ampleur. 8000 habitants, dont plusieurs communautés autochtones, sont particulièrement mis en danger en raison de la pollution des eaux. Alice Richaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission Droits des peuples et extractivisme à la Fondation France Liberté. Alors on a vu avec vous la semaine dernière les dégâts provoqués par cette marée noire, une catastrophe qui aurait pu être évitée. Petroperú, la compagnie pétrolière responsable de cette marée noire, a déjà été pointée du doigt par les autorités dans le passé pour défaut d'entretien.
Tout à fait. Cette catastrophe, comme vous l'avez dit, elle n'est pas la première. Il y a eu des conditions très similaires d'autres catastrophes avec le même oléoduc et avec la même entreprise. Rien que depuis l'année 2011, par exemple, quand l'OEFA, donc ce qui est l'organisme d'évaluation et de supervision ambientale, donc c'est un organisme public péruvien qui s'occupe en fait de surveiller un petit peu les activités des entreprises et de réguler le secteur des hydrocarbures, elle a noté depuis sa prise en fonction en 2011 que 20 urgences environnementales significatives avaient été enregistrées sur l'oléoduc Nord-Peruano, donc ce qui est énorme. Et quant à l'Osinergy Mine, qui est un autre organisme public péruvien qui lui supervise l'investissement dans l'énergie et dans les mines, il affirme que depuis 1977, 61 ruptures et fuites de pétrole ont été constatées sur l'oléoduc. Donc quand on voit ces chiffres, on s'interroge, on se dit comment est-ce possible? Et c'est pourquoi il convient vraiment de poser la question de l'efficacité du contrôle des industries extractives dans ce domaine-là et de l'autorité des organismes de contrôle comme l'OEFA, parce qu'en 2014, cet organisme avait initié un processus de sanctions administratives contre Petroperú par rapport à une fuite qui avait eu le 30 juin de cette même année 2014 dans la même région de Loreto. Et dans les infractions, il était déjà mentionné le fait qu'il y avait eu un manque flagrant de maintenance de l'oléoduc et d'entretien et la non-détection à temps des fuites. Comment expliquer du coup que Petroperú n'ait pas été contraint effectivement de faire des travaux et qu'il n'y ait pas eu des mesures plus coercitives de prise?
Alors comment s'organise l'action sur place pour obtenir réparation?
Il est vraiment intéressant de noter qu'au début de la catastrophe, l'entreprise a tenté vraiment de minimiser l'événement et de nier sa responsabilité. Donc ils ont évoqué un glissement de terrain et la foudre, notamment pour expliquer la catastrophe et la rupture de l'oléoduc. Et donc les premiers rapports de l'OFA ont permis de montrer que non, c'était vraiment un problème de maintenance. Et donc par rapport à ça, les organisations ont essayé de faire valoir donc du coup la responsabilité de l'entreprise, de vraiment souligner le fait que c'était de la faute de Petroperú ce qui s'était passé. Et donc l'AITSEP, qui est l'association interethnique de développement de l'Amazonie péruvienne, donc qui fédère quand même plus de 1300 communautés autochtones, a organisé le 19 février un sitting devant les bureaux de Petroperú, réclamant la réparation de cette catastrophe, donc une indemnisation des communautés affectées, ainsi que l'interruption totale du transfert de pétrole via l'oléoduc Nord-Peruano jusqu'à ce que des travaux soient faits pour qu'il n'y ait plus de catastrophes similaires. Un peu plus tard, d'autres organisations se sont organisées pour mettre en place une pétition envoyée au ministère de l'Énergie et des Mines péruviens afin que les populations soient prises en compte dans le PAMA. Donc le PAMA, c'est le programme d'adéquation et de gestion environnementale qu'une entreprise a pour réguler ses impacts sur l'environnement, etc. Et donc ces populations demandent que le nouveau PAMA qui va être fait pour Petroperú suite à cette catastrophe soit fait avec leur consultation, qu'ils aient le droit de regard, non seulement de regard, mais aussi de dire leur avis et d'influencer sur la rédaction de ce nouveau PAMA, parce qu'ils considèrent que toutes ces catastrophes, ce sont eux qui en ont fait les frais et qu'il est indispensable de les mettre beaucoup plus dans la participation vis-à-vis de ces procédures. Donc vraiment, le droit à la consultation, c'est ce que nous, à France Liberté, on défend énormément par rapport aux peuples autochtones qui sont les premiers touchés par ces catastrophes et qui ne sont jamais entendus.
Alors quel soutien, quel relais France Liberté et d'autres ONG peuvent-elles apporter aux populations autochtones?
Je pense que déjà sur ce cas, il a été très important de souligner que l'impact médiatique a été majeur dans la réaction de l'entreprise. C'est-à-dire que dans cette affaire, il y a eu un point de rupture qui a été le soutien de Leonardo DiCaprio suite à son discours aux Oscars. Donc Leonardo DiCaprio est très engagé sur ces questions amazoniennes et donc il a tweeté sur cette catastrophe et il a appelé ses ses fans à s'engager, à signer des pétitions, notamment la pétition d'Amazon Watch sur le sujet. Donc ça a fait un gros buzz et donc les projecteurs se sont braqués sur le Pérou et ça a accéléré vraiment les processus de réparation et de, enfin surtout de nettoyage parce que pour l'instant il n'est pas encore question de réparation. Donc voilà, donc je pense que vraiment la couverture médiatique c'est ce qu'il y a de plus, pas ce qu'il y a de plus important, mais quelque chose d'indispensable que nous, les ONG internationales, nous pouvons faire pour faire avancer le sujet. Et d'ailleurs, les populations ont vraiment remercié les associations internationales qui avaient pu les aider, soutenir et faire avancer la cause en la faisant connaître. Il faut savoir que certaines communautés ont été reconnues comme affectées et d'autres non. Donc c'est pareil, on a besoin de vraiment faire le point sur cette affaire. Et donc ces communautés-là demandent vraiment d'avoir plus de visibilité et d'être entendues, car les leaders indigènes ont vraiment souligné que si l'oléoduc passait dans une zone plus centrale du pays, il aurait sûrement été davantage entretenu, mais que comme il passe sur leur territoire indigène, ça ne pose pas de problème et que finalement ils ont encore cette impression d'être des citoyens de seconde zone. Donc en fait, il y a un problème vraiment de gestion territoriale de la crise, c'est-à-dire que le territoire péruvien n'est pas occupé de la même façon partout par l'État, donc il n'y a pas d'infrastructure pour aider ces populations isolées, et la montée en flèche des conflits socio-environnementaux au Pérou atteste d'une réelle tension finalement entre les industries extractives et les populations locales, et l'absence de l'État dans ces zones fragilise vraiment les communautés qui interagissent sans intermédiaire en fait avec ces grandes multinationales qui jouent du coup sur cet isolement et qui essayent de les convaincre qu'elles, elles peuvent leur apporter les emplois et les infrastructures que l'État ne peut pas leur apporter. Donc je pense qu'il faut vraiment souligner ce problème d'isolement de ces populations qui sont marginalisées et comme le disent les citoyens indigènes, l'impression d'être des citoyens de seconde zone.
Pour en savoir plus sur cette catastrophe et sur ses conséquences, rendez-vous sur le site de France Liberté, france-liberté.org. Merci Alice Richaume.
Merci à vous.
Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.